Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Catherine Montier, violoniste de renom et pédagogue engagée. Celle qui se définit elle-même comme ingénieure du violon partage avec nous les fondements de sa démarche pédagogique, nourrie par des années d'enseignement et d'exploration du geste instrumental. Entre son travail au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et son rôle d'enseignante au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Catherine Montier développe une approche fine et exigeante, fondée sur l'écoute, l'ancrage corporel et une recherche constante d'équilibre entre technique et expressivité. À cette rencontre suit un extrait de l'enregistrement d'un de ses cours proposé dans le cadre de l'Académie musicale Toscane, un moment où la transmission se donne à entendre et à voir dans toute sa vivacité. Mais écoutons maintenant Catherine Montier parler de son métier. Bonsoir à Catherine Montier.
Bonsoir.
On se retrouve aujourd'hui en Toscane,
oui.
Dans une académie de musique où vous enseignez,
oui.
Du violon. J'avais envie d'entendre un peu plus sur votre parcours et comment vous êtes venue au violon et à la pédagogie, à l'enseignement.
Au violon, d'abord parce que j'avais un père violoniste, donc ça c'est pas... pas forcément le cas de tout le monde, mais mon père était violoniste, il est toujours d'ailleurs violoniste, et il m'a mis naturellement un violon dans les mains, et puis j'ai pas accroché plus que ça, à vrai dire, j'en ai fait gentiment comme ça, bon, ma jeunesse, sans pression du tout, et puis ça marchait pas mal, donc j'ai continué, j'ai basculé sur un collège à horaires aménagés, puis un lycée à horaires aménagés. Et puis, j'étais pas vraiment prédestinée, en tout cas, à ça, pas de façon complètement ferme et définitive. Je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, je travaillais pas beaucoup, hein, pour être très claire. J'étais pas hyper accrochée à la chose. Mais ça marchait bien, et puis je trouvais ça sympathique, j'adorais l'orchestre. Donc, on avait des cours au collège le matin, et puis l'enseignement musical l'après-midi. Mmh. Et j'ai continué au lycée cette même voie. Ça s'est fait assez naturellement. Après, j'ai tenté l'entrée au CNSM parce que on l'avait proposé, on l'avait conseillé. Ça n'a pas marché tout de suite et j'ai fait un peu de fac en attendant et puis j'ai fini par rentrer. Et puis là, voilà, les choses se sont se sont concrétisées. J'ai devenu un peu plus sérieux. J'ai commencé à travailler mon violon, vraiment, à ce moment-là. Voilà, j'ai découvert ce que c'était que de travailler. Et voilà. Et alors, il y avait, à propos de pédagogie, en conservatoire où j'étais, à Rennes, donc dans la classe de mon père, parce que c'est lui qui m'a enseigné le violon, il y avait un petit partenariat comme ça entre les profs et les élèves. Quand on avait son prix, l'année suivante, on était l'assistant de son professeur pendant un an.
Ah.
Voilà. Donc ça, c'était mon tout premier contact avec la pédagogie, donc j'étais quand même assez jeune. Mais c'était vraiment sous la houlette de quelqu'un de plus expérimenté, donc il n'y avait pas une grande pression, quoi. Mais en tout cas, j'ai appris déjà un peu. Donc je supervisais un peu les petits, comme ça. Enfin, je me suis fait la main, en fait, très simplement. Et puis, avant le CNSM, donc j'ai eu mon prix à Rennes, et puis ensuite j'ai fait encore un an dans un autre conservatoire, un conservatoire d'Île-de-France à Saint-Maur. Et là, ils avaient le même type de partenariat, donc j'ai eu mon prix là-bas aussi. Et l'année suivante, j'ai également été l'assistante de ma professeure, voilà, de l'époque. Donc voilà, j'avais quand même eu deux, en plus c'était tous les deux, que ce soit mon père ou mon autre professeur ensuite, des très bons pédagogues, donc j'ai appris un peu auprès d'eux, et puis j'aimais bien le contact avec les enfants, mais enfin c'était pas plus, une passion que ça. J'ai été très jeune, j'avais pas 20 ans, donc c'était l'occasion de nous lancer un peu dans le bain et voir un peu ce que ça donnait, et puis de nous soulager un peu les profs aussi. Ça leur faisait des petites aides. Donc voilà, à cet âge-là, c'est pas un âge où on se destine à être comme ça, professeur, où on a juste envie de travailler son genou et de passer des concours. Enfin, voilà.
Est-ce que vous essayez des choses avec ces jeunes élèves?
Oui, j'avais pas d'idée encore extrêmement développée sur la question, évidemment, puisque c'était mes premiers pas. Donc mes professeurs m'expliquaient un peu ce que j'avais à faire, faire répéter l'élève, l'aider à... Enfin, c'était comme un peu du soutien scolaire, mais avec le violon, quoi. Donc je faisais répéter, j'étais la répétitrice, quoi. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Donc je faisais répéter leurs petits devoirs de violon, et puis je mettais mon petit grain de sel. Et puis oui, je pouvais essayer d'avoir une idée ou deux. C'était assez rigolo, parce que j'essayais d'avoir des idées différentes de celles de mes professeurs pour marquer un peu mon petit territoire, quoi. J'essayais d'apporter une petite touche un peu différente du haut de mes 18 ans. Bon, j'avais pas grande expérience évidemment, mais j'avais beaucoup de bonne volonté en tout cas. Voilà, je trouvais ça rigolo. Alors c'était rigolo parce qu'effectivement ils étaient pas tellement plus jeunes que moi. Enfin, si, quand même, c'était des petits, mais on avait 10 ans d'écart, quoi. Donc c'était pas non plus. À cet âge-là, ça fait beaucoup 10 ans, mais. Ça permettait effectivement d'avoir un regard un peu distancié sur ce que c'était de travailler son violon et de produire des petites choses, quoi. Forcément, là où j'avais du mal à faire des choses, j'avais réfléchi déjà pour moi, donc j'essayais de... Ce qui est un peu toujours la ligne principale, hein, c'est-à-dire que plus on a réfléchi à ce qu'on est obligé de faire ou ce qu'on est obligé de traverser, plus on est capable d'en parler aux élèves aussi. C'est ça l'expérience, hein. Que ce soit envers soi-même ou avec d'autres élèves, en fait. Voilà, donc, et puis après j'ai fait mes études au CNSM, et puis à la sortie du CNSM, je me suis inscrite au concours pour obtenir le CA, donc le certificat d'aptitude, qui est donc le diplôme, le plus haut diplôme d'enseignement en musique. Et je l'ai passé vraiment en candidat libre, comme ça, sans m'être vraiment préparée. Et entre-temps, j'avais fait des petits remplacements dans des conservatoires. Là, c'était un peu plus sérieux déjà, puisque c'était moi qui était censée être le chef de cette classe, quoi. Donc là, j'étais plus assistante, donc c'était pas évident. Mais bon, il y avait des petits, des grands. Je me suis fait un peu la main aussi comme ça. Et donc j'ai passé ce concours, puis je l'ai eu. Et dans la foulée, j'ai eu un peu plus d'heures d'enseignement. Mais à cette époque-là, j'avais encore une activité beaucoup plus importante de violoniste que de pédagogue. Rares sont les étudiants qui, à 18 ans, ont la pédagogie comme ça en eux, enfin en fer de lance. C'est plutôt... Ça vient plus tard en général, ils ont déjà besoin de faire leurs preuves en tant qu'instrumentistes, ils ont déjà beaucoup à apprendre. Donc c'est vrai que moi, à 18-20 ans, et au moins jusqu'à une petite trentaine d'années, j'avais encore des choses à apprendre, j'avais des choses à vivre, des expériences, etc. Et puis, donc la pédagogie a toujours été là quand même, parallèlement, mais avec plus ou moins d'importance en termes de quotité de travail, en fait. Donc jusqu'à mes 30 ans à peu près, je donnais des cours, mais j'en donnais pas énormément, mais c'était régulier, j'avais quand même un poste. Et puis, mais c'était pas mon activité principale, on va dire, voilà. Et puis ensuite j'ai eu des enfants, il y a ça aussi, c'est que j'ai commencé à vouloir partir un peu moins souvent, il a fallu que je reste un petit peu plus sur place pour m'occuper des enfants. Et puis, et de fil en aiguille, j'ai eu ce poste à Boulogne à la naissance de mon deuxième enfant, où là, j'avais vraiment envie de faire un peu plus de pédagogie, parce que ça correspondait mieux à mon mode de vie aussi, à ce moment-là. Puis parce qu'en ayant des enfants, ça m'a aussi éclairée sur beaucoup de choses, sur la pédagogie, justement. En élevant des petits-enfants, il y a quand même des choses du petit enfant qu'on comprend mieux. Leur façon de grandir, etc. Oui. Et puis ce qui se passait dans ma classe. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un poste plus important dans lequel je suis toujours maintenant à Boulogne. Et là j'ai commencé vraiment à former une classe, ma classe, telle qu'elle est maintenant, qui a évolué évidemment au fil des années, parce que ça fait 20 ans que j'y suis, celle que j'ai maintenant correspond à ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire j'ai quand même plutôt des grands, moi. Alors, j'en ai eu jusqu'à il y a quelques années, mais j'en ai de moins en moins, en fait. De fil en aiguille, ça se fait comme ça. Et puis surtout depuis que je suis devenue assistante au CNSM, évidemment, il y a des gens qui rentrent dans ma classe parce qu'ils ont envie de rentrer au CNSM et que, voilà, c'est une façon pour eux aussi de... Eux, ça fait une dizaine d'années à peu près que je suis assistante. Donc,
Et comment est venue cette envie? Il y a déjà un plein temps, finalement,
oui.
Qui a lieu à... Pologne, oui. Ça veut dire quand même au moins 16 heures sur
place.
Oui,
c'est 16 heures, un plein temps dans un CRR, c'est 16 heures. Et puis, voilà, il y avait des concerts à côté, des choses comme ça aussi, plus les enfants. Donc, voilà, c'était quand même bien chargé. Et puis, voilà, on m'a proposé de devenir assistante d'une personne que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup, qui a été nommée à ce moment-là et qui m'a proposé ce poste. Et j'ai dit oui tout de suite parce que voilà, ça se refuse pas, c'est vraiment chouette quoi. Ouais, on peut difficilement faire plus. Ouais, mieux enfin en termes de.
Quand on est assistant au CNSM, on fait quoi exactement? Comment ça change par rapport à Boulogne?
Alors, par rapport à Boulogne, ce qui change, c'est pas la nature des cours, parce que c'est la même chose, hein, on enseigne pendant une heure un étudiant. C'est juste que c'est pas le même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves que j'ai à Boulogne maintenant sont des élèves qui sont en préparation d'une entrée dans une école supérieure, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être le CNSM, comme ça peut être les écoles étrangères. Tout le monde ne rentre pas au CNSM, évidemment. Il y a des gens qui souhaitent aller à l'étranger pour des raisons diverses et variées, mais... La plupart, quand même, leur grand rêve, c'est de rentrer au CNSM parce que c'est une très belle institution et qu'elle est en France, donc c'est pratique. Elle est à Paris, ça peut être à Lyon aussi.
C'est public aussi.
Oui, c'est public en plus et il y a un très bon niveau. Donc c'est un petit peu la filière naturelle d'un étudiant qui commence dans un conservatoire, qui finit ses études dans un conservatoire de région et ensuite qui bascule dans l'enseignement supérieur.
Vous auriez pu aussi arrêter le CRR pour...
Ah non. Non, non, je trouve que les deux sont vraiment complémentaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement cette filiation. C'est les préparer, d'abord, et ensuite les accueillir. Donc, il y a un vrai... Comme ça, moi, ça me, en tant que professeur assistant, ça me donne au CRR vraiment le regard sur le niveau attendu, sur je sais exactement ce qu'on veut, le type d'élève qu'on souhaite, le profil. Je sais comment les faire travailler pour qu'ils y rentrent. Alors, ils n'y rentrent pas tous, mais enfin, en tout cas, je connais la marche à suivre, puis ça marche plutôt pas mal. Mais, et inversement, c'est très chouette de les avoir au CNSM, mais moi, j'aime aussi ce temps de construction qu'il y a avant. Ça m'intéresse aussi, parce que quand ils sont au CNSM, ils sont pas finis, hein, mais évidemment, ils ne sont jamais finis, mais ils sont déjà arrivés à un stade où ils savent déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'aime aussi ce temps qui est en amont, hein, qui... Le CRR, c'est encore des bébés. Ils ont du potentiel, ils savent déjà pas mal de choses. Mais au CNSM, on les autonomise, effectivement, on en fait vraiment des futurs professionnels. Quoi. Et pour moi, c'est assez rigolo parce que j'ai des élèves du CRR qui rentrent dans ma classe au CNSM, mais pas tous. C'est pas une obligation et puis je trouve que c'est bien qu'ils aient le choix aussi et puis ils ont pas tous le profil pour aller avec le professeur avec lequel je travaille donc sur les élèves si par exemple une année j'en fais rentrer 3 ou 4 y en a un qui va rentrer chez nous, un autre chez un voilà et je trouve que c'est très bien aussi parce que il faut les laisser choisir et c'est pas parce qu'ils viennent avec moi avant qu'ils sont obligés de me suivre
parce qu'ensuite quand on est au CNSM on peut aussi aller voir l'assistant d'une autre classe ou ça se fait pas trop?
Non, ça se fait pas trop. C'est pas hyper fluide comme ça, mais c'est vrai que quand il y a une bonne entente entre les professeurs, on peut. Nous, je sais que dans notre classe, en tout cas, quelquefois on envoie prendre sur une œuvre un élève prendre un cours avec un autre professeur dont on sait qu'il est le spécialiste et inversement on peut nous envoyer aussi des gens, ça c'est bien et ça se fait vraiment mais il faut qu'il y ait une bonne cohésion aussi entre les professeurs parce que voilà faut que ce soit
oui
mais ça se passe de plus en plus d'ailleurs, c'était pas du tout le le cas quand j'étais élève, moi, là-bas. C'était assez cloisonné, hein, les classes.
Oui.
Il y avait des gros égos de professeurs, mais maintenant, c'est un peu différent. Bah, de toute façon, tout évolue. Hein, donc, mais même au sein du CRR, moi, quelquefois, j'en vois mes élèves prendre un cours avec un collègue ou on m'envoie un élève. On échange pas mal. Et je ne saurais pas quoi dire. Je ne saurais pas comment qualifier. C'est ma pédagogie, en fait, c'est ça que vous me demandez. Je ne sais pas. Il faudrait demander aux élèves. Je pense que ce serait plus simple. Les élèves m'ont dit une fois qu'ils trouvaient que j'étais extrêmement... plutôt ferme, mais dans la bienveillance. Bon, voilà. Mais... C'est un peu l'idée. C'est ce que j'aimerais, en tout cas, ce que j'aimerais pouvoir dire de ma pédagogie, c'est que effectivement, c'est d'abord que c'est bienveillant, ça j'y tiens, et je pense que ça l'est parce que j'aime ça et parce que donc je les aime aussi. J'aime ce métier, donc j'aime aussi mes étudiants et que j'aime leur donner des clés, enfin j'aime réfléchir et leur donner des solutions. Voilà, j'ai l'impression d'un un peu comme, je sais pas, comme un ingénieur qui est confronté à un problème et qui doit résoudre ce problème. Bon ben voilà, c'est un peu ça, un petit peu ingénieur du violon, quoi, je sais pas. Mais j'aime ça réfléchir, essayer de trouver une façon pour l'étudiant de se sentir bien sur son instrument et de pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. En toute sérénité, sans qu'ils se sentent jugés, voilà, qu'ils puissent se sentir libres d'essayer des choses et que je puisse l'aider à trouver, voilà, qu'on cherche ensemble. Voilà, ça, pour moi, ce qui est très important, c'est l'interaction entre l'élève et le prof. Moi, j'apprends autant d'eux qu'ils apprennent de moi. Voilà, ça, c'est très clair. C'est-à-dire que je suis confrontée à un problème parce qu'un élève n'arrive pas à faire ci, ça, et je dois trouver une solution. Voilà. Quoi qu'il arrive, je dois trouver une solution, je dois pouvoir l'aider. Si j'arrive pas à l'aider, c'est un problème, pour le coup. À partir du moment où ils ouvrent pour la première fois leur partition, comment ils doivent prendre cette partition, comment ils doivent la regarder, l'appréhender et ensuite l'interpréter, voilà, c'est un long chemin jusqu'à l'aboutissement d'une exécution, quoi. Mais, et puis ça passe par plein de choses, quoi, par plein de paramètres différents.
Mais il y a aussi les écoles. Il y a des écoles russes, il y a des écoles françaises.
Oui, alors, il y avait des traditions d'écoles franco-belges, russes, etc. Tout ça, c'est un peu gommé, en fait, avec le temps. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter des vieux enregistrements et des enregistrements actuels et on s'aperçoit que les jeux deviennent de plus en plus semblables, en fait, quels que soient les pays. Et alors, c'est une bonne ou pas une bonne chose, ça, c'est un autre débat, mais... toujours est-il que quel que soit le professeur qu'on a maintenant, il enseignera, si c'est un bon professeur, un peu de la même manière qu'un autre bon professeur, en fait. Voilà, on a tous un peu une technique semblable, en fait, pour y arriver. Voilà, je pense qu'on a, on a beaucoup réfléchi quand même à tout ça depuis longtemps et on est arrivé à une espèce de consensus d'école de violon, en fait. Maintenant, ça a franchi les frontières aussi parce que les gens sont allés travailler un peu ailleurs et puis et que maintenant on s'ouvre beaucoup plus. On a des étudiants étrangers, on va nous-mêmes à l'étranger faire des masterclass, etc. Donc finalement, ça se distribue. Il peut y avoir une différence dans le rythme d'apprentissage, dans la façon d'appréhender justement les cours en eux-mêmes, c'est-à-dire la fréquence des cours, l'exigence, des choses comme ça. Mais sur le résultat obtenu, on a un peu le même partout, en fait. Il n'y a qu'à écouter les gagnants des concours internationaux, en fait. Voilà, donc c'est très représentatif parce qu'il y a toutes les nationalités. Mais voilà, après, il y a quelques... En fait, il y a des grands profs un peu partout. Donc, il y a des grands profs qui sont très réputés aux États-Unis, en Allemagne, en France. Voilà, il y a quelques pays un peu phares comme ça sur l'éducation musicale. Voilà. Voilà, très bien. On se refait ça ? Et pas de pied, hein ? Il y a une différence terrible entre ce qu'on s'imagine qu'on a envie de faire, ensuite ce qu'on fait réellement, et ensuite le troisième gap, c'est ce que nous on entend de ce que tu produis.
Oui.
Alors, en fait, ça passe par deux chaînes qui diluent le truc absolument, oui. Tu vois. Oui. Donc, dis-toi bien que entre ton idée première qui est là dans ton cerveau et ce que moi j'entends, ce que nous les auditeurs entendons, il y a un monde en fait.
Oui.
Donc, ce qui veut dire que ton idée, il faut la proposer de façon au moins exagéré, d'accord ?
Parce que sinon, nous, déjà avec la distance, il y a juste une histoire de distance géographique, de projection de son, et encore, je suis à 2 mètres de toi, mais imagine-toi dans une salle, tu vois. Donc dis-toi bien déjà qu'entre l'idée que tu as de faire quelque chose, la façon dont tu le fais, c'est-à-dire la production sonore, et le résultat sonore, c'est-à-dire ce que nous on reçoit, il y a un monde. Oui. Tu as déjà fait ça, j'imagine, tu t'enregistres, oui. Tu crois que tu fais des nuances, tu es hyper content, tout ça, tu as fait des portées, des pianos, tu enregistres, il n'y a plus rien. Tu as tout écrasé. Oui. Tu vois. Et bien c'est la même chose.
Oui.
C'est la même chose au théâtre, c'est pour ça qu'on doit forcer sur les maquillages, sur l'articulation, sur le jeu, etc. Ou à l'opéra, pareil. Donc nous, c'est pareil. Nous, c'est au niveau du son, au niveau de la production du son et au niveau du caractère.
Oui.
Donc si tu as envie de faire un truc festif, joyeux, forté, faut le faire, mais un peu x10.
Okay.
Après, si c'est trop, on est crème. Mais il faut déjà le geste, d'accord ? Parce que sinon, on est obligé de demander plus à chaque fois. Et on a pris le pli d'un truc un peu...
Okay.
Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'était super, bravo ! Je suis un tout petit peu jalouse de tes tris de do-do-ré. C'est quand même très très bien. Voilà. Et là, pareil, ce truc-là, quand tu as envie de faire... Si tu fais la crescendo, mais fais-le, mais énorme.
Oui.
Vraiment, un peu opéra
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.